t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi. Dans une tribune publiée la semaine dernière, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga a analysé l'impact très négatif de la Covid-19 sur les finances publiques de la RDC. Le vice-président du Sénat propose, pour parer au risque d'une crise financière dans les 3 prochains mois, que la Banque centrale s'assure de manière transparente du rapatriement rigoureux de 60% des devises produites par l'économie congolaise, de redéfinir une quotité de 20% des devises sur les 60% rapatriées qui doit obligatoirement être cédée à la Banque centrale du Congo et de conseiller au gouvernement d'élargir les secteurs qui doivent payer leurs impôts en devises et d'augmenter sensiblement la quotité des dépenses de l'État à effectuer en devises. Pensez-vous que ces propositions vont résoudre définitivement la question de l'instabilité de notre monnaie? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore en composant les 081-890-4969. Vous pouvez également débattre de manière citoyenne à l'adresse pa@radiokapi.net. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Facebook. Paul Badaniam assure la mise en onde de cette émission. Pierre Lameji est à la réalisation. J.R. Lungembo Luabung Anji est à la coordination et à la présentation de ces programmes. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Monsieur Sami Badibanga, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le Premier ministre honoraire et également vice-président du Sénat. Pensez-vous que votre propre proposition va définitivement résoudre la question de l'instabilité de notre monnaie?
Non. Ces propositions ne vont pas résoudre le problème de l'instabilité de notre monnaie. Parce qu'il faut nécessairement revenir aux fondamentaux pour mieux gérer les problèmes liés à la monnaie nationale. Mais ce qui est sûr, elles permettront d'atténuer ou de mieux gérer cette instabilité de la monnaie nationale. En fait, dans tous les pays, la norme, c'est que les devises, sauf autorisation bien sûr, sont rachetées par la banque centrale, même quand vous recevez un transfert d'argent par Western Union. Par exemple, quand vous envoyez des dollars en Belgique, le bénéficiaire en Belgique reçoit l'argent en euros, qui est la monnaie locale. Ou encore, quand vous envoyez par Western Union au Congo-Brazzaville, la personne touche cet argent en francs CFA. Et même quand on rapatrie de l'argent, automatiquement, cet argent est changé au niveau de la banque centrale et vous recevez la monnaie locale dans vos comptes. En RDC, chez nous, la constitution est claire. C'est l'article 1er et l'article 170, je crois, qui consacrent le franc congolais comme monnaie nationale qui a le pouvoir libératoire sur toute l'étendue de la République. La situation que nous vivons en RDC est une situation exceptionnelle, mais qui s'éternise. Elle n'est pas une situation normale, j'allais dire. Si nous sommes arrivés à cet état des choses, ceci remonte aux années 90, lorsqu'on a connu l'hyperinflation. Non seulement que la population et les opérateurs économiques devaient se couvrir contre l'hyperdépréciation de la monnaie nationale, mais aussi la GECAMINE, qui était la pourvoyeuse des devises à cette époque, avait aussi des difficultés. Soucieux donc d'attirer des investissements, des concessions ont été faites aux miniers pour les permettre d'être à l'abri des devises, d'où une réglementation de change qui leur permet de faire face aux problèmes de dépréciation monétaire. Garder à l'extérieur du pays 40% des recettes d'exportation pour assurer les importations de leurs équipements et rapatrier alors 60% au pays. Et donc les miniers gardent les 60% dans leurs comptes bancaires, d'où la surliquidité. Entre-temps, il y a des importateurs qui ont besoin de devises pour importer. Si leur demande de devises ne rencontre pas l'offre de devises compatible, Le réajustement se fait par les prix, donc le taux de change. Et l'économie étant dollarisée, tous les prix sont impactés. Les devises propriétés des miniers peuvent répondre à ces besoins, mais si ces derniers ne donnent pas les instructions nécessaires aux banques commerciales pour les céder aux importateurs, ces devises resteront dans le système bancaire et le dollar s'appréciera. Mais si ces devises étaient à la banque centrale, celle-ci les céderait aux importateurs pour maintenir la stabilité du taux de change et éviter la dépréciation de la monnaie nationale. On tombe là sur le coup de la loi de l'offre et de la demande. La stabilité de la monnaie dépend de deux choses, j'allais dire en priorité, c'est la production et les avoirs extérieurs. Mais à l'heure actuelle, nous avons des difficultés, nous n'avons pratiquement ni l'un ni l'autre. Voilà ce que je dis. Il faut des mesures d'accompagnement.
Voilà. Vous l'avez dit, il s'observe aujourd'hui une surliquidité en devise dans les banques commerciales. Alors, mais quand on lit la simonite, c'est-à-dire la situation monétaire intégrée, qui reprend les états financiers de la banque centrale et des banques commerciales, on se rend compte tout de suite qu'il y a un vrai paradoxe. Alors, comment expliquez-vous, dans votre tribune, ces contrastes financiers?
Non, mais écoutez, effectivement, la Banque centrale ayant décrété la libre circulation des devises et de la monnaie nationale, toutes les devises qui entrent dans le pays via les exportations, les transferts, les investissements directs étrangers ou toute autre voie, atterrissent soit au marché parallèle, soit dans des banques commerciales, dans les comptes de leurs propriétaires. En 6 ans, par exemple, à partir de 2014, je l'ai dit dans la tribune, de 2014 à 2019, les exportations ont généré plus de 78 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui est officiel, auquel il faut ajouter tout ce qui est entré par d'autres voies. Les importations ont pris une partie importante, c'est-à-dire les 40%, et le solde est resté dans les banques commerciales. Et donc, la banque centrale n'a pas pu avoir des devises dans ses comptes. L'argent se trouve dans les banques commerciales, dans les comptes, j'allais dire des sociétés privées, et la banque centrale n'a pas pu bénéficier de ce matelas de devises. La seule façon pour la banque centrale de récupérer une partie de ses devises, c'est de fixer une quantité, j'allais dire, de 20% qui devra lui être...
Dans les 60% qui reviennent, dans les 60% qui sera rapatriés.
Voilà, dans les 60% rapatriés. Il faudrait faire comprendre, les miniers, c'est une question d'intérêt général et de sécurité nationale, j'allais dire, que la Banque centrale puisse bénéficier d'un matelas de devises, ne serait-ce que 20% des 60% qui sont rapatriés, qui devront être cédés, et cela concernera que les exportateurs.
Et vous avez dans votre tribune insisté sur le caractère obligatoire de rapatriement. Mais déjà, le code minier insiste également sur cet aspect.
Oui, absolument. Mais maintenant, il faut que ce soit rigoureux et transparent. On doit savoir qui a rapatrié quoi et qu'est-ce qui lui reste à payer.
Donc, il faut publier. Il faut publier officiellement.
Il faut publier. À mon humble avis, il faut publier. Il faut publier parce qu'il faut jouer dans la transparence.
Alors, vous l'aviez signalé dans votre analyse qu'il est interdit par l'article 16 de la loi du 13 juillet 2011, les financements monétaires du déficit. Pourquoi alors la Banque centrale a fait le choix dans cette situation de la dépréciation de notre monnaie? Pourquoi il a fait ce choix de financer ce déficit?
Écoutez, la Banque centrale ne pouvait pas non plus laisser le pays mourir. Effectivement, la loi de 2011 relative aux finances publiques interdit en son article 16 le financement monétaire des déficits budgétaires du pouvoir central. Vous pouvez lire la loi de finances de 2011, vous allez le voir en son article 16. Mais la banque centrale et le pouvoir central n'ont pas de choix face à l'aménagement des recettes et à l'accroissement des dépenses, et surtout face aux dépenses incompressibles ou encore impératives. Si vous ne pouvez pas compter sur l'endettement, les dons, vos réserves de change, il ne vous reste plus que la planche à billets pour sauver la République. Donc, il est difficile d'interdire la planche à billets et tenir sans production et sans avoir extérieur. Et d'ailleurs, à propos de cette loi financière de 2011, j'ai initié une proposition de loi pour amender justement l'article 16 et même 15 qui n'autorise l'emprunt du pouvoir central qu'auprès des institutions financières non bancaires locales. Donc, à ce jour, les emprunts du FMI, de la Banque mondiale, les banques du Trésor auprès des banques commerciales sont à ce jour interdits conformément à la loi. Dans les dispositions transitoires et finales de cette loi, l'article 230 avait prévu une application progressive des articles de cette loi pendant 7 ans. Certains articles étaient d'application immédiate, mais les autres devaient attendre le 1er janvier de la 8e année pour leur application.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui?
Cela est fait depuis le 1er janvier 2019. Donc, à cette date, conformément à l'article 234, les emprunts autres qu'auprès des institutions financières non bancaires locales sont interdits. Mais cela est impossible.
Oui,
la loi doit être amendée.
Oui, monsieur le vice-président du Sénat, c'est vrai, en quoi vos propos, les analyses faites dans votre tribune, on se rend compte qu'il y a nécessité de revoir cette loi de finances publiques et en même temps aussi le code minier.
Absolument. En tout cas, par rapport à la loi de finances publiques, nous ne pouvons pas y échapper. Sinon, nous n'allons plus pouvoir tourner. Regardez, d'après les derniers chiffres que j'ai vus, nous avons un déficit de 889 millions de dollars, un déficit budgétaire de 889 millions de dollars, mais les réserves sont de 832 millions de dollars. Il y a un problème. Comment résoudre ce déficit? Si on prend les réserves de change, c'est-à-dire que nous sommes à zéro.
Oui.
À zéro semaine.
Alors, parce que...
il faut absolument amender la loi pour permettre à la République de fonctionner.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, les économistes, comme ils aiment bien le dire, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Est-ce qu'on peut se dire que ces principes sont en train de s'appliquer maintenant dans les cas d'espèce?
Absolument. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, sans production et sans avoir extérieur, il est difficile à notre monnaie de tenir. Sinon, elle va complètement couler. Nous devons soit avoir de la production, mais avec la pandémie, vous avez vu à quel niveau est-ce que la crise a atteint tous les pays du monde. Vous avez les États-Unis qui financent la monnaie à hauteur de plus de 2000 milliards de dollars. Vous avez l'Europe qui va financer l'économie à plus de 750 milliards d'euros. Mais le Congo devra trouver une solution. Puisque nous n'avons pas de production, voilà pourquoi je propose cette quotité à la Banque centrale qui permettra à la Banque centrale d'avoir un matelas pour pouvoir soutenir la monnaie locale.
Est-ce qu'il s'agit là d'une solution conjoncturelle ou structurelle?
Elle est encore conjoncturelle. Pour qu'on arrive à des solutions structurelles, il faut des réformes. En profondeur, comme je disais au début, il faut revenir aux fondamentaux.
Voilà.
Si besoin, il nous faudra même un nouveau fonds congolais.
Donc il faut simplement redéfinir une quotité de 20% dans les 60% rapatriés, obligatoirement. Cela pouvait, tant soit peu, de manière conjoncturelle, résoudre ce problème et parer à une crise, au risque d'une crise financière dans les 3 prochains mois. Je crois que beaucoup d'analystes ont également fait ces analyses, mais je sais que aussi vous avez plusieurs préoccupations. Mais si vous le permettez, monsieur Sami Badibanga, on va écouter 2 auditeurs et puis je vous libère parce que vous avez d'autres charges. Alors Eric est à Kolwezi et Christian est à Kinshasa. Eric, vous avez la parole, vous avez suivi l'ancien Premier ministre. Quelle est votre réaction, Eric?
Merci la radio Okapi, merci les auditeurs. Bon, ma préoccupation est celle-ci. J'ai 3 préoccupations. Premièrement, donc, le gouvernement national. Le gouvernement national, en commençant par le président, le gouvernement national pourrait instaurer donc le système de payer le fonctionnaire de l'État en francs congolais, et en commençant par le président de la République, le premier ministre et son gouvernement, les sénateurs ainsi que le parlementaire national, qu'il commence à toucher en francs congolais au lieu en devise. Et oui. Et puis sur le plan provincial, donc sur le provincial, nous avons Vessie province. Dans le Vessie province, que le gouvernement provincial et aussi avec leur gouvernement, eux aussi commenceront à toucher en francs congolais. Et je pense que ça c'est la première préoccupation. Et je sais que à la banque, il y aura quand même des devises. Il y aura quand même des devises là-bas. Et maintenant, deuxième préoccupation, les entreprises publiques et les entreprises privées, comme chez nous ici à Colésie, la plupart des travailleurs qui travaillent dans des entreprises publiques ou privées, ils touchent leur salaire en devises au lieu en francs congolais. Si on le paye en francs congolais, je pense que les devises vont rester donc à la manque. Et la troisième préoccupation, c'est donc défavoriser, décourager l'importation et favoriser l'exportation. C'est-à-dire, l'État doit nécessairement créer des entreprises, créer des productions pourvu que, et décourager l'importation pourvu que le Congolais s'intéresse beaucoup à ceux qui produisent vraiment localement. Et puis j'ajoute encore et faire interdire aussi les cambistes. C'est seulement la banque qui sera donc le premier
interdiction du marché d'échange.
Des échanges de monnaie, oui.
Le parallèle. Merci beaucoup Eric d'avoir appelé de Colésie. Alors là nous retenons que vous insistez beaucoup plus sur les principes de dédollarisation de notre économie et en même temps favoriser ce que vous appelez l'importation et l'exportation à la place de l'importation. Bon, je crois que je n'ai pas bien compris ce que vous avez voulu dire par là. Vous avez beaucoup plus insisté sur l'interdiction des marchés d'échange. Alors, Christian, vous êtes à Kinshasa. Politassi, bonjour.
Bonjour, Gilles, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre contribution? Vous avez suivi notre invité qui demande à ce qu'on puisse redéfinir une quantité de 20% dans les 60% des devises qui seront rapatriées obligatoirement.
Il s'observe depuis un temps que de plus en plus nos politiques animent des conférences et forums et consorts pour donner en fait éclaircir la situation qui s'éprouve actuellement au pays. Mais cependant, il s'observe également que eux-mêmes ils sont au pouvoir, ils sont aux affaires. Alors pourquoi ne pas directement appliquer ces théories que nous publient chaque fois? Sinon, si aujourd'hui ils n'appliquent pas cela, ou ils n'amènent pas un débat en interne, c'est pas mauvais, oui, c'est pas mauvais de faire des expositions, de faire des forums pour expliciter, mais c'est encore bon de faire des démarches en interne pour pouvoir les appliquer. S'ils ne le font pas hier, ils seront justement considérés comme...
Oui, mais Christian, vous avez suivi notre invité qui a évoqué tout à l'heure l'impératif de pouvoir réviser, par exemple, la loi des finances publiques. Lui, en tant qu'honorable sénateur, je crois qu'il apportera quelques réflexions là-dessus après sa tribune.
Gilles Lungembo, vous savez, le sénateur a très bien dit, concernant par exemple la question du rapatriement des 60%. Mais c'est une question réglée par la loi. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait faire. Moi, je crois que le gouvernement est plus...
Oui, mais parce que ça n'a pas marché dans le format de 60% tel qu'exigé par les gouvernements. Et lui propose qu'on puisse redéfinir dans le 60% que le 20% rapatrié doit obligatoirement être cédé à la Banque centrale.
Oui, c'est une bonne chose, Gilles Lungembo, mais le problème, en fait, c'est la volonté politique. Aujourd'hui, lui, il l'a dit, mais est-ce qu'ils auront la volonté, cette volonté-là, de le faire afin que cela puisse profiter à la population congolaise? Je crois pas. C'est une bonne chose de le dire, mais encore faut-il les démontrer, encore faut-il l'appliquer. Nous encourageons ces gens, oui, Gilles.
Vous avez dit vous encouragez ces gens des analyses.
Nous encourageons ces gens d'analyse, mais nous voulons à ce que nous puissions quitter à un état des théories pour vers un état d'applicabilité de ce genre de théorie. Sinon, nous risquerons d'aller de tribune en tribune sans pour autant changer des choses. Aujourd'hui, chacun cherche en fait à nous démontrer ses qualités ou encore ses connaissances. Mais sur le plan pratique, c'est autre chose. Nous voulons bien, c'est très bien une bonne chose de mener ce genre de réflexions, mais l'applicabilité pose problème.
Merci
aujourd'hui,
beaucoup.
Aujourd'hui, voilà. j'ai à pour finir. Le sénateur a donné des bonnes pistes et des solutions. Moi, je crois que la question majeure, c'est en fait chercher les problèmes à la racine, afin de les résoudre. C'est vrai.
La question de la production.
Aujourd'hui donner, évidemment, nous devons aujourd'hui donner, pour sortir de cette crise, donner en fait des propositions conjoncturelles, et à la longue, nous donnerons des propositions structurelles. Mais est-ce que ces propositions seront-elles appliquées? C'est ça la majeure question.
Merci beaucoup, Christian Politassi. Avant de retrouver également notre invité, afin de les libérer, Marie-Paul, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quel est votre avis?
Oui, monsieur le journaliste, il faut dire qu'économiquement, il y a à boire et à manger dans les propositions faites par le vice-ministre du Sénat. Le vice-président du Sénat. Alors, la crise qui traverse la RDC actuellement, monsieur le journaliste, on ne peut pas les justifier amplement parce qu'il y a eu Covid. Mais c'est une situation qui a denté, c'est une situation surannée. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, les autorités de la RDC ne cherchent pas à résoudre les problèmes par la racine. C'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, il y a l'instabilité des francs congolais vis-à-vis de la devise. Ce n'est pas parce qu'il y a Covid. Ce n'est pas parce qu'on est rapatrie pas les quantités qu'il faut à la banque. Mais le grand problème, c'est l'économie. Et comme tout économiste, lorsqu'un pays est dans une situation de l'improductivité, et sa monnaie est toujours fragilisée vis-à-vis des autres monnaies, je crois que nos autorités doivent plutôt beaucoup plus multiplier leurs réflexions pour fructifier l'économie pour que les pays arrivent à produire les biens et services. Et c'est partant de ces ventes-là à travers les autres pays que les pays peuvent stabiliser sa monnaie. Aujourd'hui, on peut bien compter parce que si nous allons dans les cryptes d'analyse de ce que la RDC amène dans les commerces internationaux. C'est juste les produits miniers. Vous savez tous ce que ces produits engendrent comme des conséquences à la RDC. C'est parce que la RDC, d'ailleurs, lui qui exporte ces produits, ne fixe même pas les prix. Il y a la détérioration des termes d'échange. Ce sont des notions que nous connaissons tous, nous chantons, mais nous ne savons pas comment les contourner. Et je crois que nous devons plutôt, comme nous l'avons suggéré autrefois, quitter dans cette histoire des monoproduits vers la diversification des produits. Mmh. Et lorsqu'on va diversifier les produits ou l'économie de la RDC, c'est là avant seul que la monnaie congolaise puisse avoir beaucoup plus de la valeur.
Oui.
Parce que si aujourd'hui on va compter sur les gens qui rapatrient des devises, et à un moment, parce que nos produits sont des produits, ils sont des produits finis, non renouvelables. Un jour aussi on peut se réveiller, il n'y a plus de coltan, il n'y a plus de cuivre. Mais est-ce que le pays va disparaître? Non. Je crois que nous devons plutôt que ces réflexions du président du Sénat soient plutôt beaucoup plus être apaisantes sur la manière dont on peut fructifier l'économie, on peut relâcher l'économie.
Mais Marie-Paul, nous l'avons dit, ça ce sont des solutions structurelles, mais entre-temps, il faut penser à parer au plus pressé, c'est-à-dire à parer au risque d'une crise financière dans les 3 prochains mois. Nous avons vu Matata Ponyo réagir aussi pour dire les taux d'échange pourraient aller même au-delà de 2000 jusqu'à au mois d'octobre. Alors donc, de telles réflexions, il faut penser au sérieux comment apporter des solutions conjoncturelles et rapides pour empêcher les taux d'échange qui montent et qui pénalisent aussi la population.
Oui, c'est ça. Je pense que je n'ai pas dit que ce soit des mauvaises choses, ce soit des bonnes initiatives. Mais ce qu'il faut savoir aussi que on doit aussi avoir des retenues, certaines retenues, parce que nous savons que notre économie est tenue par des individus. Et les manias, les bailleurs de fonds congolais, parfois ils sont en train de faire de mauvaises politiques pour justement qu'on puisse avoir ces problèmes et pour que la population soit emmerdée. Je crois que ce sont des réflexions qui doivent à ce niveau-là se limiter entre les gouvernants, parce que voilà, la population n'a pas besoin de toutes ces spéculations. La population a besoin des concrets. Les concrets, c'est que on doit stabiliser la monnaie, on doit donner le pouvoir d'achat à la population. La population doit vivre.
Alors merci beaucoup. Alors là, c'est dégage derrière des questions. C'est vrai, ce débat ne date pas d'aujourd'hui. C'est, en tout cas, c'est vieux comme le monde, hein, parce que depuis 80, lorsqu'on parlait encore de quinquennat, le plan quinquennal, on parlait de beaucoup de projets qu'avait fait le président Mobutu, et beaucoup d'analyses ont été réalisées et qui ont conduit même à l'élaboration des documents comme le DCRP1 et le DCRP2. Alors aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas? Moi, je vois encore en 97, après 90, lorsque un éminent professeur en économie, Mulumba Lukoji, a été placé comme premier ministre, mais n'a pas pu, en tout cas lorsqu'il a quitté la primature, stabiliser la monnaie locale. Donc c'est tout un problème, c'est l'arsenal des débats que nous devons engager. 081-890-6330 pour votre participation dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Sami Badibanga, vous êtes le vice-président du Sénat, ancien Premier ministre. Vous avez suivi ces trois auditeurs. Avant de vous libérer, quelle est votre réaction? Parce que lorsqu'on écoute Eric et Christian, qui insistent beaucoup plus sur la dédollarisation de notre économie, et qui passe par le paiement, parce que la masse salariale des fonctionnaires, également des entreprises privées et publiques, doivent passer en francs congolais. Alors, et interdire les marchés que nous appelons communément les marchés des cambistes. Quelle est votre réaction?
Bon, il faut éclaircir les choses. Premièrement, concernant le premier auditeur, je dois ici affirmer que le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État, des élus, des ministres, etc., se fait en francs congolais. Enfin, le paiement ne se fait, des rémunérations ne se fait pas en dollars. Donc, c'est une fausse information qu'il a. Le paiement se fait en francs congolais, se calcule en francs congolais, mais chacun a la latitude d'aller changer cet argent pour l'avoir en monnaie étrangère, puisque c'est une monnaie que j'allais dire de réserve. Mais tout est calculé en francs congolais. Quand il parle de décourager l'importation, effectivement, ce serait une bonne chose, mais pour pouvoir décourager l'importation, il faut pouvoir donner des financements aux investisseurs locaux pour qu'ils puissent financer leurs investissements. Et là, nous tombons sur un problème de recettes et même de budget. Quel est le taux, le pourcentage qui est dans notre budget qui est réservé aux investissements? Il tourne autour d'1%. Donc ce n'est pas grand-chose. Il faudrait effectivement aller d'abord dans des réformes structurelles de toute notre économie pour arriver à résoudre ce problème. Mais là, nous sommes en train de discuter sur la politique monétaire. Mmh. Comment arrêter un peu cette hyperinflation ou cette dépréciation de la monnaie locale? Il a donné l'exemple en disant qu'on devrait interdire les cambistes. D'accord, mais j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous interdisez les cambistes, où allez-vous trouver les dollars? Ça va poser un problème. Mmh. On a parlé tout à l'heure des exportateurs qui rapatrient 60%, mais les 60% restent dans leurs comptes dans les banques commerciales. Mmh. Ils n'ont pas donné d'instruction pour qu'on puisse vendre ces devises à d'autres importateurs, des denrées alimentaires par exemple. Et d'où viendront ces dollars? Voilà pourquoi tout le monde est en train de se rabaisser sur le marché parallèle. Mais pour que la Banque centrale puisse avoir des devises, donc des avoirs extérieurs, c'est pour ça que j'ai proposé qu'on puisse avoir une quotité de 20% où les exploitateurs sont obligés de céder à la Banque centrale. Et ça, ça va permettre à la Banque centrale d'avoir des devises et donc pouvoir gérer le taux et diminuer l'influence, effectivement, du marché parallèle qui est tenu par les cambistes.
Mmh. Alors,
quant à l'auditeur...
Allez-y, monsieur le vice-président.
Quant au deuxième
auditeur.
Intervenant, auditeur, la tribune que j'ai publiée, ce ne sont que des propositions qui permettent à ce que les gens puissent avoir des échanges. Parce qu'il me semble que c'est un problème sérieux et délicat qui doit être traité. Le mettre dans une tribune ou en discuter à la radio, sur les ondes, ça fait partie de ce qu'on appelle la démocratie participative. Il faut faire participer le peuple, il faut faire participer la société civile, tout le monde, dans un échange pour pouvoir arriver à quelque chose. Mais il est vrai qu'il faut une volonté politique, effectivement, pour pouvoir arriver à un changement réel. Je vous ai parlé du problème de la loi 11/011 du 13 juillet 2011 concernant les finances publiques. Et je vous ai dit que, personnellement, j'ai introduit une proposition de loi pour amender l'article 16 et l'article 15. Donc, nous travaillons, ça c'est dans mon domaine législatif, je pourrais faire effectivement quelque chose. Mais cela n'empêche qu'une démocratie participative serait la bienvenue pour permettre à la population et au peuple de participer à toutes les décisions qui seront prises.
Voilà. Alors, mais la grande question que moi je me pose également, Monsieur Sami Badibanga, aujourd'hui, ces débats sur les finances publiques, c'est quand même vieux comme le monde. Au regard de documents qui ont été élaborés pour pouvoir trouver toujours des solutions, sortir les pays de la pauvreté, quand je cite notamment les DCRP 1 et les DCRP 2, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Est-ce que c'est réellement un problème de production? Ou de l'autre côté, il faut beaucoup plus mettre en exergue la question de la volonté politique. Parce que nous avons vu des éminents professeurs en économie défiler dans la primature, mais n'ont pas pu stabiliser la monnaie. Ils n'ont pas pu résoudre ces problèmes cruciaux de finances publiques.
Bon, c'est un problème récurrent, mais pas seulement au Congo. Partout dans le monde, tous les pays continuent à travailler pour améliorer leur situation économique. C'est vrai que la volonté politique a un grand rôle à jouer, mais il y a des efforts énormes qu'on devrait faire pour attaquer les réformes. Aujourd'hui, c'est le temps des réformes structurelles. Nous devons réellement travailler très sérieusement à avoir ces réformes. Et là, ça demande une organisation, ça demande la participation de toute la classe politique. Et des éminents professeurs, comme vous dites, la société civile, pour pouvoir travailler autour de toutes ces réformes. Et ce n'est qu'en ayant une certaine crédibilité, notamment en enrayant la corruption, tous ces problèmes que nous avons autour, quand on parle des réformes, on arrive aussi sur le problème de la fiscalité, le problème des recettes. Il faut absolument arriver à digitaliser nos régies financières. Par exemple, arriver au e-gouvernement, c'est-à-dire que la numérisation de tous nos services de l'État, ça va enrayer très fortement la corruption et permettre à avoir les résultats ou un contrôle en temps réel des différents chiffres qui passent dans les différentes régions. C'est encore une proposition qui doit être discutée, mais il faudrait avoir une autorité qui fusionne toutes les régies financières et même la douane pour voir qu'est-ce qui peut être en résulté de meilleur. Donc, c'est-à-dire que tout ça doit passer par des discussions, par des résolutions et beaucoup de volonté politique cette volonté politique qui pourra nous permettre d'arriver à quelque chose. Ne dit pas que la crise est arrivée à cause de la COVID, mais la COVID a aggravé la situation. Ça, on ne peut pas le nier. C'est à travers le monde, on le voit, les dégâts qu'a causé la COVID. On est dans une crise économique plus forte même que la crise de 2008. Donc, on ne s'abat pas ou on ne trouve pas prétexte sur la COVID, mais nous devons en tenir compte.
Alors, est-ce qu'on peut dire également que des exonérations accordées frauduleusement ou encore de manière un peu exagérée aux entreprises ou encore d'autres investisseurs ont aussi favorisé à mal, en fait, un impact négatif sur les finances publiques?
Bon, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Hein. Il faut retenir que les exonérations sont légales. Okay? Vous avez, par exemple, les exonérations dont bénéficient certaines compagnies par rapport au code des d'investissement. Enfin, ce n'est pas illégal. Mais seulement, il faut les contrôler et ne pas les donner à ceux qui n'en ont pas droit. Même les compensations aussi sont acceptées, mais il ne faut pas les faire à tout bout de champ. Ce sont des décisions exceptionnelles qu'on prend dans certains cas. Mais il ne faut pas en faire une habitude où ça devient tout à fait normal de bénéficier des compensations ou des exonérations, même quand il ne le faut pas. Et il faut très bien traiter cette question, voir à quel moment est-ce qu'on a interdit complètement ces exonérations et ces compensations. Et je vois qu'on s'attaque beaucoup au privé ou aux sociétés privées, voire même aux transitaires. Mais il faudrait aussi voir qui a accordé cette exonération, parce qu'il y a un signataire derrière cette exonération. Et donc il faudrait voir aussi qui a signé cette exonération et pourquoi l'a-t-il signé. Donc, il faut travailler pour mettre tout ça à...
Alors, avant de vous libérer...
Voilà. Ne pas toucher avec...
Oui, honorable sénateur, avant de vous libérer, aujourd'hui, le débat sur la planche à billets, et c'est vrai, on l'a dit, le financement par le déficit, la planche à billets... vous pouvez nous en parler un tout petit peu, parce que quand la population entend ça, la manière dont on présente la chose, finalement, il n'y a que des risques ou il y a aussi des avantages quand la Banque centrale recourt à la planche à billets.
Bon, d'abord, je vous ai parlé par rapport à la loi que la planche à billets est interdite. Mais ceci étant, il n'y a pas qu'au Congo qu'on recourt à la planche à billets. Le financement monétaire se fait dans tous les pays, et voire même dans les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou encore en Europe. Si nous devons accepter la planche à billets, c'est dans des périodes exceptionnelles et des moments difficiles où nous n'avons pas d'autre solution et que nous devons passer à la planche à billets. Mais pour ça, il faudra retoucher la loi. J'ai suivi hier, je crois, le pacte de stabilité qui a été signé entre le ministre des Finances, ministre de Fiscalité, le ministre de Budget et le gouverneur de la Banque centrale. Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais maintenant, comment soutenir cette décision? C'est-à-dire travailler sur base caisse et ne pas financer le déficit. Il y a deux choses. Il faudrait aussi voir, il ne faudrait toujours pas voir la planche à billets du côté d'une manière péjorative, du côté négatif. Le problème aussi, c'est comment utiliser la planche à billets, tout en maintenant la stabilité des prix, notamment du taux de change. Quelles dépenses financer et comment les financer? Quand le faire? Parce que la République ne peut pas non plus mourir. Si nous arrivons dans une situation où nous ne pouvons pas nous en sortir, eh bien le financement de la monnaie doit suivre. Mais derrière, quel est le matelas qui pourra soutenir le financement pour garder la stabilité. Donc il ne faudrait pas toujours voir la planche à billets de manière péjorative, parce qu'elle est utilisée, c'est un instrument qui est utilisé aussi dans beaucoup de pays.
Voilà. Monsieur Sami Badibanga, je crois que nous avons eu à épuiser les temps que nous avons prévus avec vous. Nous rappelons que vous intervenez depuis la Belgique, là où vous vous trouvez à présent. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la tribune que vous avez publiée. À très bientôt, Monsieur Sami Badibanga.
Je vous remercie.
Parole aux auditeurs.
Nous nous retrouvons d'ailleurs avec François qui était à Ilebo, José Mbumba, il est depuis en France. François, vous êtes avec nous à Ilebo. Bonjour François. François, vous êtes avec nous? Voilà, on prend plutôt José Mbumba qui est en France. José, vous êtes avec nous?
Oui, je suis plutôt en Allemagne.
Ah, vous êtes en Allemagne. Alors, aujourd'hui, quand on lit la tribune du vice-président du Sénat, on se rend compte qu'il propose de redéfinir une quantité de 20% de devises sur les 60% rapatriés qui doit obligatoirement être cédé à la Banque centrale du Congo. Alors, comment avez-vous accueilli cette proposition?
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que la Banque centrale aujourd'hui, dans la situation actuelle de l'économie congolaise qui est dollarisée, la Banque centrale a besoin de devises pour pouvoir intervenir sur les marchés d'échange. La preuve, vous avez vu dernièrement, la banque a injecté 47,1 millions de dollars américains et les taux d'échange s'est stabilisé. Donc ça signifie que l'instrument intervention par les devises est un instrument très important. Mais ces devises, il faut les avoir. Sauf que la Banque centrale ne les a pas. Et même quand la Banque centrale est intervenue en injectant 47,1 millions de dollars américains, il les a pris sur les réserves d'échange, mais qui ne représentent que 3 semaines et 2 jours. Mmh. Or, la norme veut que nous ayons 3 mois au minimum. Ça signifie qu'on doit se situer autour de 3 milliards 600 millions, d'après mes calculs, pour pouvoir avoir un matelas suffisant. Et donc, pour avoir 3 milliards 600 millions de dollars, il faut les chercher. Il faut les avoir. Or, aujourd'hui, les banques commerciales sont surliquides. Et l'économie congolaise a produit des exportations, moi j'ai calculé, par rapport au rapport de la Banque centrale du Congo, 2018, page 99, je suis à 78,2 milliards de dollars américains qui ont été exportés. Donc ça signifie que pour moi, si effectivement la Banque centrale arrive à avoir cette quantité de 20%, autour par exemple de 15 milliards de dollars américains, d'abord qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura des revenus de seigneuriage. Et à part ces revenus de seigneuriage, la Banque centrale va avoir des devises pour pouvoir intervenir. Parce que ces devises existent bien sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, les banques commerciales, quand vous les interrogez, elles vous disent que nous sommes en surliquidité sur le plan devise, notamment dollar. Mais la Banque centrale ne les a pas. Au contraire, elle va encore puiser sur le peu de réserves qu'elle a. Pourquoi on ne peut pas justement instaurer cette quantité pour que ne fût-ce que la Banque centrale récupère les devises? Puisque déjà, la réglementation d'échange fait une part belle à certains exportateurs, notamment miniers, où ces exportateurs-là retiennent 40% de leurs recettes à l'extérieur. Ils ne rapatrient que 60%. Donc déjà, il y a une part belle à ces exportateurs. Mais c'est les 60% qui sont rapatriés, pourquoi est-ce que la Banque centrale ne prendrait pas 20%? Parce que cette pratique a même existé. Moi, j'étais chef comptable dans une banque de la place qui a été liquidée et on cédait ces 20%, ou en tout cas un pourcentage important au niveau de la Banque centrale. Comment comprendre? Le Nigeria, à côté, a 38,61 milliards de dollars américains de réserves d'échange.
Mais José Mbumba, parce que le débat aujourd'hui sur les finances publiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous regardons plusieurs documents qui ont été élaborés dans notre pays, ne serait-ce que pour aider le pays à sortir de la corruption et lutter contre la pauvreté, mais on se rend compte que finalement, c'est un problème d'homme, c'est un problème de volonté politique. Parce que les lois sont là, et comme l'initiateur de la tribune propose d'ailleurs la révision de l'article 16 de loi sur la finance publique. Est-ce que c'est vraiment important, c'est opportun?
Ben oui, pourquoi d'abord? Parce que je ne parle même pas du Congo, mais je parle de la théorie économique. Que tous les économistes et les monétaristes de la Banque centrale savent que la contrepartie de la masse monétaire en circulation, les contreparties, elles sont trois. Un, les devises étrangères. Ils ne doivent pas normalement circuler. Quand vous les amenez dans votre pays, vous émettez de la monnaie nationale. Deux, les crédits que le système bancaire fait à l'État, notamment la banque centrale. Et trois, les crédits que vous faites à l'économie. Donc, on ne peut pas interdire les avances à l'État. Ils représentent effectivement chez nous la place en billets. Pourquoi est-ce que vous allez interdire ça alors que la théorie économique l'a prévu?
Mais une chose est vraie, que la planche à billets a toujours été péjorative. En tout cas, dans le commun des mortels.
Mais oui, pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'utilisation. Et je vais vous dire, pour éviter justement ce caractère péjoratif, qu'est-ce que la loi? Et les gens n'en parlent pas. La loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. C'est cette loi qui régit les finances publiques dans ces pays-là. On doit modifier ces articles, notamment l'article 16, 15, 14. Mais cette loi a tout prévu. Et je vais vous dire. Un, cette loi, article 414, le budget doit être présenté en équilibre. C'est-à-dire que les dépenses de l'État ne doivent être financées que par les ressources de l'État. Deux, l'État congolais, d'après cette loi, article 15, peut emprunter. OK? Peut emprunter. Mais si l'État emprunte, c'est pour financer les investissements. Mmh. Et c'est comme ça que cet article ne tolère que l'emprunt au niveau des investissements. Vous me suivez?
Oui, tout à
donc,
fait.
Ça signifie que même l'État, à travers la loi relative aux finances publiques, a prédit qu'on peut avoir du déficit, mais qui peut être financé par les emprunts.
Voilà. Alors, José Bouba, vous êtes économiste, vous êtes analyste économique. Nous vous gardons en ligne, le temps d'écouter d'autres auteurs. Nous vous gardons en ligne, ne quittez pas. Le temps d'écouter François Akieta Ilebo et John Aïsiro. Et puis, on reviendra également à vous pour avancer dans ces débats. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
François, vous êtes à Ilebo. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup. Bonjour, JR. Bonjour, Pierron et le Meiji. Bonjour au comité rédacteur qui est avec vous dans les studios. Bonjour à ma très chère épouse, Marie-Marie Kabeya. Je suis très content de ce sujet du 19 août 2020 concernant les constats négatifs faits par l'ancien Premier ministre Fanny Badibanga de la COVID-19 sur les finances publiques de l'État. Le vice-président du Sénat actuel propose pour parer au risque d'une crise financière dans les 3 mois prochains que la BCC s'assure de manière transparente du rapatriement rigoureux de 60% des devises produites par l'économie congolaise, de redéfinir une quantité de 20% des devises sur les 60% rapatriées, qui doit obligatoirement être cédée. La BCC est conseillée au gouvernement d'élargir les secteurs qui doivent payer les impôts en devises et d'augmenter sensiblement la quantité des dépenses de l'État à effectuer en devises. Personnellement, et à mon avis, je salue l'idée pour permettre à la relance économique rapidement surtout pendant la période de la pandémie, tout en mettant l'accent sur la valeur perdue des CDF, c'est-à-dire les francs congolais, et sensibiliser surtout les grands contribuables et les grandes entreprises à cette nouvelle donne en faveur de notre pays. Parce que vous savez, les grandes entreprises, les grands contribuables, ce sont là qu'il faut entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics. Alors il a fallu que le gouvernement mette les mécanismes sur pied, mais les sensibiliser de commencer à payer selon la vision que le premier ministre Honoré a préconisé. Donc, c'est un bon sujet qui pourra permettre à ce que si le gouvernement écoute nos propositions, nos interventions, je pense que l'économie sera bien relancée.
Merci beaucoup, François, d'avoir appelé Nilbo. John, vous êtes à Isiro. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour, John.
Bonjour, cher JR. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre réaction?
Oui, par rapport aux propositions des vice-premiers ministres du Sénat, c'est quand même c'est une bonne chose parce que le pays a connu beaucoup de turbulences. Au-delà de ça, Monsieur Hier, il faut que, à mon avis, qu'on puisse quand même réduire l'effectif du gouvernement. Vous voyez qu'à ce niveau-là, le gouvernement congolais est en train de consommer beaucoup de dépenses au niveau du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas avoir 65 ministres, tout ça, ça coûte aussi le pays. Si on peut voir ça, ça pourrait quand même aider l'économie. Il faut aussi voir sur le plan global la production. Il faut promouvoir, il faut diversifier ce qui est le potentiel que nous avons. Il faut diversifier ça. Tout ça, il faut qu'il y ait la volonté politique. Il ne faut pas que vous puissiez mettre les bateaux dans les roues de quelqu'un qui a la volonté. Il faut quand même que vous puissiez quand même soutenir la vision. S'il y a bonnes idées, il faut quand même soutenir ça. Il ne faut pas quand même bloquer ça. C'est ce qui cause un peu des problèmes. On peut avoir des idées, mais si on voit quand même que non, notre économie, ça ne va pas. Il y a d'autre part, il y a le blocage. Avec ça, on ne peut pas quand même avancer. Il faut quand même, pour moi, réduire l'effectif du gouvernement. Les dépenses publiques sont là. Il ne faut pas commencer à budgétiser des choses qui ne vont pas, qui ne cadre pas avec le développement. Avec ça, on ne peut pas s'en sortir.
Oui, mais c'est ce qu'a proposé Sami Badibanga. Est-ce que vous avez un commentaire lorsqu'il dit que sur les 60% rapatriés, on doit redéfinir une quantité de 20% qui doit impérativement être cédée à la Banque centrale? Ça pourrait résoudre tant soit peu et nous éviter les risques d'une crise financière dans les 3 prochains mois.
C'est depuis longtemps qu'on avait parlé de ça. C'est maintenant au bas central, maintenant d'appliquer ça. On a déjà parlé de ça. Ce n'est que la volonté pour appliquer ça. Si les entreprises publiques, les entreprises là qui dans notre pays, ce n'est même pas question de quoi. C'est pour question de la volonté. Il faut que la BEC s'adresse pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour mobiliser les recettes, pour stabiliser l'économie, pour stabiliser les monnaies. C'est ça le grand problème, la volonté là.
Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, John Mbumba, analyste économique, et également sur la question des actions ou des solutions conjoncturelles et des solutions structurelles à ce stade pour parer au risque d'une crise financière dans les 3 prochains mois. Faut-il, disons, s'adonner ou s'employer à des solutions structurelles, ou bien il faut carrément chercher des solutions conjoncturelles?
Non, mais l'économie est claire. Pendant des situations de crise, on prend des décisions conjoncturelles. On mène une politique conjoncturelle. Mais cela n'empêche pas de prendre des mesures structurelles qui vont aller sur le long terme, les moyens et les longs termes. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, mon cher, nous devons remettre la gestion monétaire à l'endroit. Parce que cette gestion fonctionne à l'envers. Pourquoi dans tous les pays du monde, parce que vous entrez avec vos devises, vous ne pouvez pas les consommer? Pourquoi chez nous, on doit les consommer? Donc ça va être une vision à long terme. Alors, parce qu'on ne va pas casser directement cette dollarisation pour directement reprendre les fonds qu'on les amène. Mais il faut déjà commencer à analyser comment on fait. Est-ce que nous devons passer par une réforme monétaire pour que les francs congolais et non la volonté même de la Constitution soit valorisée? Est-ce que nous devons tout redéfinir? C'est pas que nous devons faire, nous devons réfléchir. Mais la politique conjoncturelle doit être démise, parce que nous sommes dans une situation conjoncturelle. Elle ne peut qu'être démise. Mais ça, c'est l'apanage de la Banque centrale du Congo, qui doit prendre des mesures adaptées à cette situation que nous traversons, pour pouvoir stabiliser, parce que c'est ça son objectif. C'est pourquoi elle a été créée.
Oui, mais quand dans cette tribune, Sami Badibanga évoque l'élargissement de l'assiette fiscale, est-ce que nous ne risquons pas de tomber dans le principe trop d'impôts, tue l'impôt?
Non, mais ça dépend. Si vous élargissez votre assiette fiscale en allant chercher ceux qui ne sont pas répertoriés au niveau du CRIP.
Donc, vous faites allusion au secteur informel.
Si vous voulez.
Le secteur informel.
Oui, par exemple. Oui, pas nécessairement au secteur informel, mais même au secteur formel qui ne paye pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ne payent pas. Il y a des entreprises qui ne payent pas, l'IGF vous l'a dit. Maintenant, si vous voulez élargir en ajoutant des impôts sur ceux qui payent déjà des impôts, vous tuez l'impôt. Mais si vous demandez à ceux qui ne payent pas, vous forcez ceux qui ne payent pas de payer. Ah non, vous n'êtes pas en train de tuer les recettes, vous n'êtes pas en train de tuer l'impôt. Vous ne faites que le travail que l'État doit faire.
Alors, on va écouter Alfred et puis on revient à vous pour conclure. Alfred, vous êtes à Calémy. Bonjour Alfred.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à mes invités, bonjour aux auditeurs de la radio.
Vous avez la parole. Quelle est votre analyse de cette tribune?
Mon analyse se base sur le point où cette initiative peut être nécessaire à certains endroits, dans un sens pour la Banque centrale de s'assurer de manière transparente du rapatriement rigoureux de 60% des devises produites par l'économie congolaise. Cependant, elle semble avoir une ambiguïté dans la mesure où cette pandémie est encore là.
Oui, on a l'impression qu'on est en train de vous perdre. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Parce que là, vous sortez comme dans une caisse.
Oui, j'étais disant que cette initiative peut être nécessaire à certains endroits, dans un sens pour la Banque centrale de s'assurer de manière transparente du rapatriement rigoureux de 60% des devises produites par l'économie congolaise. Cependant, elle semble avoir une ambiguïté dans la mesure où cette pandémie est encore là et a touché presque à toute activité de façon négative. C'est pour dire que même les secteurs habilités à payer les impôts ont du mal à se situer au paiement. Et surtout que l'exploitation commerciale n'est pas encore régulière au niveau des frontières. Donc, pour rendre notre monnaie stable ou pour stabiliser notre monnaie, selon moi, j'estimerais, outre les mécanismes énoncés par les vice-présidents du Sénat, que la Banque centrale puisse recourir auprès des pays étrangers ou à des organisations internationales. Voilà un peu ma pensée et ma contribution face à ce sujet.
Merci beaucoup. Alors, José Mbumba, quelle est votre réaction par rapport à cette préoccupation de l'Alfred? Et c'est par là que nous allons terminer en concluant cette émission.
Oui, vous pouvez me la, vous pouvez me rappeler.
Alors, il a parlé.
Vous pouvez me rappeler cette préoccupation.
Alors, il a dit, il faut recourir aux prêts à l'extérieur.
Ah non, non, mais même les prêts à l'extérieur, c'est un outil à la disposition de l'État. Un pays ne peut que recourir à un emprunt. Et les emprunts, notamment les emprunts extérieurs, sont là pour financer le développement de nos États. Nous ne pouvons pas nous passer des emprunts extérieurs. Ce n'est pas tout possible. Mais par contre, je voulais glisser un mot sur les exonérations. Mmh. Je ne sais pas si vous pouvez me le...
Oui, allez-y rapidement en une phrase, parce que nous sommes presque à la fin.
Oui, oui, non, non. C'est-à-dire qu'il y a un problème de gestion et de suivi des exonérations. Les exonérations sont légales, effectivement, mais sauf que c'est un investissement pour les pays. À supposer qu'un pays qui arrive, qui prend 1 million d'exonérations, parce que ça doit être évalué, on sait qu'on lui a donné 1 million d'exonérations, mais en retour, il faut aller vérifier si, effectivement, notamment, cette entreprise s'est installée et qu'il a engagé un personnel qui, par exemple, paye des impôts qui, totalisés, sont supérieurs à 1 million pour que cette exonération soit rentable vis-à-vis de l'État qui a investi en exonérant. Maintenant, si ce suivi n'est pas fait, il y a des problèmes. Mais si ce suivi est fait, il faut retenir les exonérations rentables et supprimer toutes les exonérations non rentables parce que ça tue l'État congolais.
Merci beaucoup John Mbumba d'avoir accepté d'intervenir également comme invité dans cette émission. Nous rappelons que vous êtes analyste économique. Merci et à très bientôt pour un autre numéro. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Paul Badaniam était à la mise en onde, Pierre Lameji à la réalisation et J.R. Lungembo, Luabung Angie a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.